Voilà, là, c'est la cinquième catéchèse. Donc, les deux premières catéchèses étaient orientées sur un peu sur l'ecclésiologie, c'est-à-dire que le sens d'une paroisse, que signifie une paroisse, à quoi sert-elle. Ensuite, j'ai voulu aborder tout de suite le sujet de fond, c'est-à-dire la source et le sommet de la vie chrétienne. Part de la célébration de la communauté, la célébration des sacrements, la liturgie. Donc j'ai voulu aborder ce sujet tout de suite et j'ai commencé par définir la liturgie. Et puis j'avais pris justement dans la dernière, dans nos dernières rencontres, le passage du Concile Vatican II qui donne une sorte de définition qui montre la nature de la liturgie. Alors il faudrait relire tout. Sacrosanctum Concilium, hein, qui traite de la liturgie, pour mieux saisir. Alors, ce n'est pas ce qu'on va faire. Vous pouvez le faire de votre côté, si vous voulez. Mais je tiens compte de cela pour toute la suite, maintenant. Là, je vais aborder un sujet beaucoup plus délicat, parce que je descends dans le concret des choses, c'est-à-dire, je pose la question, quelle liturgie, aujourd'hui, doit-on célébrer ? Quelle liturgie pour notre Église aujourd'hui et donc pour la paroisse aussi. La liturgie, je l'ai déjà dit, c'est, comme le Concile le dit, c'est le Christ qui agit, hein, c'est l'action sacerdotale du Christ, hein, donc c'est le Christ qui agit dans l'Esprit Saint, qui s'offre au Père, il s'offre au sein même de toute éternité, au sein même de la Trinité, hein, c'est un mouvement d'amour trinitaire qu'on retrouve dans la liturgie, qui est aussi et avant tout l'actualisation du mystère de Pâques, c'est-à-dire que le Christ se donne jusqu'au bout au Père et offre sa vie par amour pour les hommes et pour le Père. Il meurt sur la croix, il ressuscite. C'est ce mouvement, ce mystère pascal que nous revivons à chaque fois que nous célébrons la liturgie. Et puis, ce mouvement d'amour, hein, du Fils vers le Père dans l'Esprit Saint, eh bien, nous y sommes associés par notre baptême. L'Église elle-même est associée à ce mouvement, et quand on célèbre, eh bien, on dit, c'est le Christ d'abord qui agit, il n'empêche que nous sommes complètement intégrés à ce mouvement, et en tant qu'Église, en tant que membre de l'Église, nous-mêmes, nous sommes invités à nous offrir aussi dans le même mouvement. Et l'Église elle-même donc célèbre en s'offrant par amour. Et c'est pour cela que c'est ce qui justifie la participation consciente et active des fidèles. Hein, c'est un terme qu'on retrouve à deux reprises dans le Concile, qui a été très mis en avant ces dernières années, depuis 40 ans, hein, pour justifier le fait que les fidèles, eh bien, ils devaient... ne pas simplement regarder le prêtre prier, mais prier avec le prêtre. Et puis, je crois que surtout, on a compris qu'il devait faire des choses dans la liturgie. C'est un sujet qui, au départ, a suscité beaucoup de transformations dans la manière de célébrer, et qui, depuis quelques années, en particulier grâce aux réflexions de quelqu'un comme le cardinal Ratzinger, le pape Benoît XVI maintenant, eh bien, a été remis, re-questionné en disant est-ce que la participation active des fidèles, c'est d'abord de faire des choses? Est-ce que c'est en faisant beaucoup de choses qu'on participe activement? Ou est-ce que la participation active, c'est une participation active dans le sens où on est conscient de ce que l'on vit, on entre dedans, et puis bien sûr, si on a des services à remplir au sein de la liturgie, on les remplit, mais ce n'est pas cela qui qualifie notre participation active. En tout cas, c'est parce que l'Église est associée à l'offrande du Christ, hein, que c'est tout un, que les fidèles aussi ont leur participation active, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir leur participation active et consciente. Et consciente, donc c'est toute la raison d'être aussi de certaines catéchèses sur ce sujet. La liturgie, normalement, elle est le lieu de l'unité des communautés. C'est-à-dire que c'est la source et le sommet, c'est le lieu où on se reçoit et on se donne à Dieu, on reçoit de Dieu et on se donne à Dieu, c'est la source et le sommet, et à cause de cela, quelles que soient les sensibilités des membres de la communauté, quelles que soient les préférences des membres de la communauté, eh bien, c'est le lieu où on doit se retrouver en communion. Quand on communie au corps du Christ, au même corps, à travers la communion eucharistique, eh bien, nous ne formons plus qu'un seul corps dans le Christ. Ce n'est pas une affaire psychologique, c'est une réalité qui se concrétise dans la communion eucharistique. C'est un facteur d'unité, et pourtant, la liturgie fait l'unité de la communauté, la manifeste et la construit, et pourtant, on ne peut pas nier que depuis au moins 40 ans, maintenant avant, je ne sais pas, j'étais pas né, ça a été malheureusement facteur de division. Et si on ne veut pas avoir d'ennui, il ne faut pas parler de liturgie, c'est plus sûr. Il faut laisser tout comme c'est. Pourtant, la liturgie doit être facteur d'unité. Alors, en France, il y a un phénomène particulier qui est plus fort que dans d'autres pays, c'est que la liturgie a été malheureusement instrumentalisée, c'est-à-dire qu'elle a été utilisée à d'autres fins que ce qu'elle donne elle-même, c'est-à-dire vivre, recevoir la grâce de Dieu, et puis laisser le Christ nous transformer. Donc elle a été instrumentalisée, voire idéologisée, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est très très mal à l'aise, parce que certaines attitudes sont interprétées tout de suite, soit positivement, soit négativement, selon nos sensibilités, et nous empêchent de vivre la liturgie pour ce qu'elle est. Alors, compte tenu de tout cela, quelle liturgie, aujourd'hui, on doit mettre en place ? Dans nos communautés. Il y a eu dans le passé certains excès dans la compréhension de ce que demandaient les livres liturgiques d'après-concile, certains excès, et aujourd'hui, la question de savoir, c'est comment, jusqu'où faut-il aller dans un nouveau rééquilibrage de la liturgie. Alors, moi, je vais vous partager simplement ce qui me semble être l'essentiel, c'est que il faut revenir aux fondamentaux de la liturgie. C'est un petit peu ce que j'essaie de faire en parlant de la définition de la liturgie. Et ensuite, les fondamentaux de la liturgie, c'est quoi ? C'est simplement, il faut retrouver la liturgie telle que le Concile et les livres post-conciliaires, qui sont les livres qui sont sortis, qui ont été approuvés pour la plupart par Paul VI, puis le Missel romain, lui, il a eu des nouvelles éditions par la suite, même Jean-Paul II en a approuvé une réédition, eh bien, il faut les prendre tels qu'ils sont et les accueillir tels qu'ils sont. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau travail à refaire, à reprendre ce que les livres nous disent, à les reprendre et à les accueillir, un peu comme si on les redécouvrait. Parce que parfois on a cru les connaître, mais en fait on ne les connaît pas. Il faut revenir aux fondamentaux, et les fondamentaux, c'est par exemple, le fait que la liturgie se reçoit et elle ne se construit pas de toutes pièces. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui allons conserver le minimum nécessaire, par exemple du pain et du vin, puis après le reste, on fait un peu ce qu'on veut. Non, la liturgie se reçoit et on est appelé à l'accueillir, nous, en tant que communauté, et à la vivre selon nos capacités. Elle se reçoit de l'Église, et à travers l'Église, elle se reçoit du Christ. La caractéristique de la liturgie, la nouvelle liturgie, si on peut dire comme ça, la liturgie rénovée, c'est qu'elle a une grande capacité d'adaptation. C'est une grande nouveauté, un point très positif. Elle est adaptée, d'abord on peut l'adapter aux cultures dans lesquelles quand le missel romain a été donné à l'Église de France, eh bien l'Église de France a commencé un travail dessus pour la traduction et pour la mettre en œuvre. Bon, il n'empêche qu'en France, les adaptations sont très relatives parce qu'on est quand même très très proche de Rome en fait. Au niveau culturel, on n'est pas loin non plus de l'église de Rome et on est assez à l'aise dans la liturgie de Rome. Liturgie romaine. Ça fait des années en France qu'on utilise la liturgie romaine, même si à certains moments la France a eu des spécificités liturgiques. On a appelé ça la liturgie gallicane dans l'Antiquité, puis après à plusieurs reprises, c'est la liturgie romaine qui s'est de nouveau imposée chez nous. Donc la conférence épiscopale française a fait un travail de traduction et tout ça pour nous donner la liturgie que l'on a actuelle dans le missel romain. Dans le missel romain pour simplifier les choses. Puis ensuite, la liturgie est de nouveau adaptable au niveau des communautés locales. C'est-à-dire qu'une communauté doit avoir une liturgie qui soit proportionnée à ses capacités. On fait la liturgie qu'on en reçoit, mais on la fait selon nos capacités, à tout point de vue, capacité de chant et tout ça. Donc on l'adapte de nouveau, tout en gardant bien évidemment tous les éléments que l'Église nous demande de garder. Cependant, la liturgie, en même temps qu'on a appelé à l'adapter, elle nous pousse en avant, c'est-à-dire qu'elle nous invite à faire quand même notre maximum toujours. C'est-à-dire qu'on n'est jamais... On ne peut jamais dire que voilà, c'est bien, enfin, on a célébré comme il fallait. Quand on aime quelqu'un, et dans la liturgie, il y a cette dimension-là, quand on aime quelqu'un, on ne peut jamais dire que voilà, je vais vous faire un bouquet de fleurs, c'est parfait, c'est tout à fait suffisant, maintenant, il n'y a plus rien à redire. J'ai pas à lui représenter mon amour et à chercher à lui plaire encore davantage. Dans l'histoire de l'Église, il y a eu deux formes liturgiques qui se sont côtoyées et qui se sont stimulées réciproquement. C'est celle des communautés monastiques et celle des communautés de la liturgie qu'on appelle la liturgie cathédrale et la liturgie des paroisses. La liturgie monastique est une liturgie plus longue, plus ascétique, plus sobre en général. Tandis que la liturgie cathédrale, c'est la liturgie donc, des diocèses et des paroisses, c'est une liturgie plus riche et plus populaire dans le sens positif. C'est-à-dire, c'est une liturgie qui parle à tout le monde, qui n'est pas une liturgie d'intellectuels, qui n'est pas une liturgie de gens formés, c'est pas une liturgie de gens qui avaient fait des études spécifiques comme pouvaient l'être les moines. C'est une liturgie qui avait beaucoup de couleurs, beaucoup de reliefs. Alors ces deux liturgies se sont influencées dans l'histoire jusqu'à ce qu'on ait la liturgie d'aujourd'hui. Et puis encore aujourd'hui, par exemple, le prêtre catholique célibataire, comme ils sont la majorité, de rite latin, eh bien, il prie le bréviaire. Et le bréviaire, c'est une abréviation de la liturgie des moines. Il continue à faire cette prière. Et puis maintenant, maintenant et déjà depuis longtemps, mais maintenant l'Église appelle de façon forte à ce que les fidèles aussi découvrent la prière de l'office des heures et de l'office des prières. Paradoxalement, dans les paroisses, on a arrêté de prier les vêpres le dimanche après-midi à la même période, comme quoi il y a eu des paradoxes, il y en a eu d'autres. En tout cas, si je vous parle de la liturgie monastique et la liturgie cathédrale, c'est pour vous montrer qu'il y a une diversité possible au sein même de la liturgie. Mais ce qui me semble important, c'est que la liturgie des paroisses doit être une liturgie populaire. C'est-à-dire une liturgie du peuple de Dieu, une liturgie qui parle au peuple de Dieu et qui ne soit pas excessivement pour l'élite chrétienne catholique. Il faut que quelqu'un qui soit même loin de l'Église, qui rentre dans l'Église, puisse tout de suite sentir qu'il se vit quelque chose de fort au-delà de la compréhension qu'il peut en avoir. Donc c'est une interpellation. Notre liturgie, par conséquent, ne doit pas être trop bavarde, et elle a tendance à l'être depuis la Réforme, puisqu'on comprend tout. Donc on a tendance à parler encore plus, plus on en rajoute toujours. Donc elle ne doit pas être trop bavarde, pas être trop cérébrale non plus. Moi, il est normal qu'il y ait une dimension dévotionnelle qui s'y exprime, dévotionnelle dans le sens positif, c'est-à-dire que... Et donc, ça donne toute la place à la redécouverte de la prière avec le corps, avec nos sens, avec en y mettant de la beauté. Donc voilà, qu'elle soit belle, qu'elle soit aussi joyeuse, qu'on exprime une certaine joie au sein de la liturgie, alors que dans la liturgie monastique, par exemple, il y aura une ascèse beaucoup plus forte, qui fera aussi toute sa beauté. Quitte à me répéter, la liturgie n'est pas modifiable à notre guise. Il y a des espaces de liberté qui sont prévus, mais on ne peut pas modifier ce que l'on veut. Il y a des espaces d'adaptation qui sont prévus. Elle n'est pas modifiable à notre guise, aussi pour une autre raison de ce que j'ai dit jusqu'à présent. C'est une liturgie que l'on reçoit. Le fait que ce soit le Christ qui agit au sein de la liturgie, que ce soit l'offrande sacerdotale du Christ, donc ça justifie le fait qu'on la reçoit et qu'on ne peut pas la manipuler. Mais il y a une autre raison, c'est l'expression très courante pour parler de la liturgie, c'est que la lex orandi correspond à la lex credendi, c'est-à-dire la loi du croire, la règle du croire, de ce que l'on croit, correspond à la règle de la prière. Si on célèbre par exemple l'Eucharistie, pour prendre un exemple très simple, très facile, si on célèbre l'Eucharistie sans aucune, en faisant un petit peu ce qu'on veut, d'une façon, en gardant un petit peu l'essentiel, mais bon, autour, on fait un peu ce qu'on veut, eh bien, il va de soi que progressivement, l'Eucharistie elle-même va devenir tout à fait relative dans la vie des chrétiens. Considérons que c'est un aspect de la prière, mais c'est pas la fin du monde, c'est pas si grave, et puis c'est pas si grand que ça. Et donc, on voit qu'il y a une véritable correspondance entre ce que l'on croit et ce que l'on prie, la manière dont on prie. C'est pour ça qu'en liturgie, si on n'est pas vigilant, et si on célèbre la liturgie sans en modifiant un certain nombre de choses qu'on ne devrait pas modifier, mais progressivement, notre foi elle-même va être touchée. C'est pour ça que la déchristianisation actuelle de nos régions, il ne s'agit pas de tout mettre sur le dos de la liturgie, car je pense que ça serait faux, complètement faux. Il y a un phénomène qui est compliqué, mais on ne peut pas non plus ne pas dire que notre manière d'appréhender la liturgie n'a pas pu influencer la déchristianisation. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, si jamais on néglige certains aspects essentiels de notre foi dans la liturgie, ça a des conséquences sur la foi des fidèles. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles le cadre que l'Église nous donne est important à respecter. En disant tout cela, je veux vraiment dire qu'il ne s'agit pas d'être légaliste pour être légaliste. Le problème aujourd'hui, c'est aussi cela, c'est qu'on est sorti sans doute, parce que moi je ne l'ai pas connu, d'une liturgie qui était très, très... très rigide, dont on ne pouvait pas faire grand-chose, on ne pouvait pas... Et comme on est sorti, certains, beaucoup avaient un sentiment d'emprisonnement, en sortant de cela, eh bien, la liberté retrouvée, c'était un peu comme mai 68, quoi. On a été interdit d'interdire après. Et aujourd'hui, on doit retrouver l'équilibre entre accueillir la règle, ce que nous donne l'Église, comme positif, comme éducatif. C'est-à-dire que la loi de la prière, la règle de la prière, va nous aider à mieux croire et à grandir dans notre foi. Et va nous aider aussi à mieux vivre. Je pense que plus on va vivre une liturgie fervente, soignée, enfin, fidèle à ce que l'Église nous demande, et plus dans notre vie, naturellement, on va avoir envie de faire la même chose. C'est-à-dire d'avoir une vie chrétienne encore plus... Que notre vie chrétienne soit, que notre vie soit encore plus chrétienne, quoi. D'être encore davantage imprégné des commandements du Seigneur et d'en vivre. Un autre aspect, et c'est un peu pour terminer, parce que ça va faire bientôt 20 minutes, un autre aspect important que l'on retrouve aujourd'hui, c'est l'aspect de la continuité avec le passé. Et je suis sûr qu'un bon nombre d'entre vous, ça va vous parler. Donc il y a, y a la liturgie qu'on appelle maintenant la forme extraordinaire de la liturgie romaine, c'est-à-dire la liturgie d'avant le Concile, et puis il y a la liturgie des nouveaux livres d'après-Concile, la forme ordinaire. Les termes que le pape Benoît XVI a demandé qu'on parle comme ça des deux formes de la liturgie romaine. Entre les deux, eh bien, il y a une continuité. Et ce qu'il faut redécouvrir, c'est qu'il n'y a pas une continuité que sur les points essentiels, comme par exemple le pain et le vin. Si on a le pain et le vin et qu'on a les paroles « ceci est mon corps, ceci est mon sang », on est dans la continuité. On est dans une certaine continuité, mais cette continuité n'est pas suffisante. La liturgie n'est pas un mime de ce que Jésus a fait. C'est-à-dire que si c'était un mime, si l'Eucharistie était un mime de ce que Jésus avait fait, eh bien, on célébrerait aujourd'hui la Sainte Cène comme Jésus l'a fait, en s'asseyant comme Jésus, sans doute à la méthode romaine, en s'étendant, et on ferait à l'identique, on aurait refait un peu comme on fait un film et qu'on repasse. Mais la liturgie n'est pas un mime, c'est un mémorial. C'est-à-dire qu'on fait mémoire d'un événement, mais mémorial dans le sens très fort, c'est-à-dire en faisant mémoire, on rend présent l'événement, hein, ou une anamnèse aussi, hein, donc c'est des termes, mais on rend présent un événement passé, on l'actualise, c'est-à-dire on le rend présent comme si on y était, mais dans notre histoire et par l'action de l'Esprit-Saint, c'est-à-dire que c'est pas donc un film, c'est pas un film qu'on se repasse. On ne fait pas un mime, donc ça veut dire que la liturgie, c'est progressivement, entre le moment où Jésus a institué la Sainte Cène, et puis aujourd'hui, le Saint-Esprit a progressivement développé la liturgie, et l'Église a grandi, comme Jésus l'avait promis, par l'action de l'Esprit-Saint, a grandi dans la compréhension même de ce que l'on célèbre, ce qui fait que ça a influencé notre manière de célébrer. Donc, il ne s'agit pas de faire donc un mime, et à cause de cela, on est dans la continuité, on célèbre la liturgie dans la continuité de la Sainte Cène et des premières eucharistiques des chrétiens. On est dans la continuité, mais pas dans la reproduction à l'identique, dans la continuité qui se développe par l'action de l'Esprit-Saint. Et c'est l'Église qui a la responsabilité de préserver cette continuité. Ce qui fait qu'au moment du Concile Vatican II, la demande de l'Église, des pères évêques, de vouloir renouveler la liturgie, de rénover la liturgie, eh bien, a été non pas de dire « on va faire comme Jésus a fait il y a 2000 ans », mais ils ont donné un certain nombre de consignes que vous pouvez retrouver dans les textes du Concile, mais ils n'ont pas dit vous allez supprimer tout le grégorien, vous allez supprimer tout le latin, vous allez supprimer le gloria, vous allez supprimer... Non, alors, j'ai fait exprès de prendre le grégorien et le latin que l'on n'utilise plus, chez nous en tout cas, et le gloria que l'on continue à utiliser. C'est au même niveau. C'est-à-dire que la continuité, c'est l'Église qui décide quel type de continuité on doit accueillir dans la liturgie. Et une des sources de tension qu'on a eues ces dernières années, c'est justement le fait qu'on a donné trop l'impression de fonctionner par rupture, d'être dans la rupture par rapport à ce qui se vivait avant. Alors peut-être certains vont dire tant mieux que c'était dans la rupture, on était plus à l'aise. D'autres, moi qui n'ai pas connu... avant, ben je dis dommage qu'on soit dans la rupture. Parce que, de fait, nous sommes dans la continuité. La liturgie d'avant-concile était aussi nourrissante, même si elle avait besoin d'être... Elle a été aussi nourrissante. Elle a fait énormément de saints. Elle a permis à énormément de personnes de devenir des saints, comme celle d'aujourd'hui doit le permettre aussi, elle le permet. Le bienheureux Jean-Paul II a été nourri en partie de la nouvelle liturgie, hein, on voit bien. Et bien, voilà. Et donc, il y a cette continuité qui n'est pas une continuité uniquement sur l'essentiel. Alors, c'est la raison pour laquelle le pape Benoît XVI, il y a quelques années, a permis que désormais, on puisse, les fidèles et les prêtres, très librement, puissent vivre la liturgie, la forme extraordinaire de la liturgie romaine, c'est-à-dire la liturgie d'avant le concile, et la liturgie nouvelle, la forme ordinaire. Les deux liturgies peuvent être vécues simultanément par les fidèles et par les prêtres. Les prêtres, très librement, ils peuvent décider de célébrer dans la forme extraordinaire, et les fidèles aussi, ils peuvent aussi très librement dire à leur curé « Moi, je veux célébrer dans la forme extraordinaire », et le curé n'a pas de raison de refuser. Parce que le pape Jean-Paul, le pape Benoît XVI, à travers ça, voulait vraiment montrer qu'on est dans la continuité, on n'est pas dans la rupture. C'est pas c'est mal avant, c'est bien après. Parce qu'il y en a qui disent le contraire, d'ailleurs. C'est mal aujourd'hui, c'était bien avant. Alors, ni l'un ni l'autre n'a raison. Hein, mais nous sommes dans la continuité. Alors, la prochaine fois, je continuerai sur ce thème de la continuité pour expliquer, expliciter un petit peu les éléments importants de cette continuité. Voilà. Et puis surtout, donc je vous dis des choses, si vous avez des réactions ou des questions, n'hésitez pas à me les faire parvenir, même si c'est des choses où vous n'êtes pas d'accord, vous ne comprenez pas bien, etc., vous me le dites, parce que je me ferai un plaisir d'essayer d'y répondre. Merci.